Sale pute, tu cherches encore à attirer l'attention? Lança Loupé à la jolie trapéziste. Ce n'est pas ton avenir, oublie tout ça, ajouta-t-elle à l'intention de Juan Diego. Ils arrivaient à proximité des cages. Les lions étaient éveillés tous les quatre. Les yeux des trois lionnes suivaient attentivement la petite foule qui déambulait dans l'allée des tentes. Le mâle à l'allure maussade, hombre, plissait les yeux sur le dompteur en approche. Les passants auraient pu croire que le jeune infirme trébuchait et que sa petite sœur l'avait pris par le bras pour éviter qu'il tombe. Ils auraient pu imaginer que le boiteux se penchait vers sa sœur pour déposer un baiser sur sa tempe. En réalité, Juan Diego murmurait à l'oreille de Loupé. « Si tu arrives à savoir ce que les lions ont dans la tête, j'arrive à savoir ce que toi, tu as dans la tête, pour l'amour du ciel. Fais gaffe en déchiffrant leurs intentions. »« Mais c'est à toi de faire gaffe. Personne ne comprend ce que je dis, sauf si tu traduis. »« Admets seulement que je ne suis pas ton plan de sauvetage. » dit Flore à Edward Bancho. Celui-ci était en larmes, larmes de joie, larmes de désarroi, larmes tout court. Il semblait inconsolable. Le pouvoir du désir, là encore. La petite troupe s'était arrêtée devant la cage aux fauves. « Hola, hombre !» dit Loupé au lion. Le grand fauve regardait Loupé. Et rien qu'elle. Sans doute Juan Diego rassemblait-il le courage nécessaire pour devenir marcheur céleste. Sans doute se disait-il à ce moment-là qu'il avait assez de cran pour ça. En fait, devenir une merveille au masculin lui semblait parfaitement possible. « Vous pensez toujours qu'elle est retardée mentale ?» demanda-t-il au dompteur. « Vous voyez bien que Ombre a compris qu'elle lit dans les pensées, n'est-ce pas? C'est une vraie extra-lucide. » Mais il n'était pas aussi sûr de lui qu'il en avait l'air. « N'essaye pas de m'avoir, marcheur au plafond, » dit Ignacio à Juan Diego. « Ne t'avise pas de me mentir quand tu traduis ta sœur. Je saurai si tu mens, acrobate de mes deux. Moi, je lis dans tes pensées, enfin, un peu. » Quand Juan Diego se tourna vers Loupé, celle-ci ne fit aucun commentaire. Elle ne haussa même pas les épaules. Elle se concentrait sur le lion. N'importe quel passant anonyme dans l'allée des tentes aurait compris que Loupé et Hombre étaient en phase. Plus personne n'existait, tant pour le vieux fauve que pour la petite fille. Chapitre 20 Casa Vargas. Dans son rêve, Juan Diego entendait de la musique, sans savoir d'où elle venait. Rien à voir avec le son criard d'un groupe de mariachi, passant de table en table à la terrasse du Marqués del Valle, un de ces groupes assommants qui jouaient un peu partout dans le Zocalo. Ce n'était pas davantage la version cirque de Streets of Laredo avec cuivres et percussions. Ce qu'il percevait, c'était une voix. Au milieu de son rêve, il discernait les paroles, certes pas aussi agréables à entendre que lorsque le brave gringo entonnait la chanson. Oh, il l'aimait tellement, The Streets of Laredo, El Gringo Bueno. Il pouvait même la fredonner dans son sommeil. Loupé, elle aussi, savait bien la chanter. Même avec son timbre cassé et son élocution sibylline, Loupé avait une voix de petite fille, une voix innocente. Le chanteur amateur qui vocalisait sur la plage s'était tu. Ce que percevait Juan Diego ne pouvait donc être la musique rebattue du karaoké. Les joyeux réveillonneurs du beach club de l'île Panglao étaient allés se coucher ou alors ils s'étaient noyés pendant leur bain de minuit. Aucun son ne provenait plus de l'Encantador. Les Nocturnal Monkeys, Dieu merci, s'étaient tu. L'obscurité était totale dans la chambre d'hôtel. Juan Diego retenait sa respiration parce qu'il n'entendait pas celle de Myriam, mais une voix qu'il ne reconnaissait pas, et qui chantait cette funèbre chanson de western. Enfin, vraiment bizarre. The Streets of Laredo, chantée par une femme mûre, ça ne collait pas. La voix ne cadrait pas avec cette chanson. Aux vêtements que tu portes, je vois que tu es un cow-boy. Chantait la femme d'une voix basse et rauque. Ces mots, il m'adressa comme je passais lentement devant lui. Était-ce la voix de Myriam? Comment pouvait-elle chanter alors qu'il n'entendait pas sa respiration? Dans le noir, il n'était même pas sûr qu'elle soit là. « Myriam ? » murmura-t-il. Il répéta son nom un peu plus fort. « Myriam ?» La chanteuse s'est tue. Il retint sa respiration. Il guettait le moindre souffle. Peut-être Myriam était-elle retournée dans sa chambre ? Avait-il ronflé, parlé dans son sommeil ? Cela lui arrivait parfois quand il rêvait. Je devrais tendre le bras pour savoir si elle est là. Mais il n'osait pas. Il mit la main sur son sexe, puis porta ses doigts à ses narines. L'odeur ne devait pas l'étonner. Il se souvenait tout de même d'avoir fait l'amour avec Myriam. Quoique... Il avait parlé en effet de l'impression que ça lui faisait d'être en elle. Il avait dit que son contact était soyeux ou très doux. C'était tout ce dont il se souvenait. Des mots. Et Myriam avait dit « T'es marrant, t'as toujours besoin de trouver le mot juste. » Un coq se mit à chanter en pleine nuit. Les coqs étaient-ils devenus fous aux Philippines ? Celui-ci avait-il perdu la boussole à cause du karaoké ? Ce stupide gallinacé avait-il confondu les singes de la nuit et les poules de la nuit ? « Mais tuez-le, ce coq !» dit Myriam de sa voix grave et rauque. Il sentit ses seins contre sa poitrine et son épaule, puis les doigts de Myriam qui se refermaient sur son sexe. Peut-être voyait-elle dans le noir. « Ah, te voilà, chérie !» lui dit-elle, comme si elle avait besoin d'être rassurée sur sa propre existence, de savoir qu'il était bien là, avec elle, alors qu'un instant auparavant, il se demandait si elle était réelle. Le coq Maboul recommença à chanter dans le noir. « J'ai appris à nager dans l'Aïwa, » dit-il. Drôle de réflexion à l'adresse de qui vous tient la quéquette. Mais pour Juan Diego, et pas seulement dans ses rêves, le temps faisait des sauts, en avant ou en arrière. Sa mémoire était plutôt associative que linéaire. L'Aïwa, ce n'est pas particulièrement la patrie des nageurs. Je ne boite pas dans l'eau. Myriam le faisait à nouveau bander. Loin d'Iowa City, Juan Diego avait peu de chances de rencontrer des gens passionnés par l'Iowa. « Tu n'es probablement jamais allé dans le Midwest, » remarqua-t-il. « Oh, je suis allé partout, » répondit Myriam, laconique. « Partout, comment est-ce possible ?»« Mais chacun peut avoir son point de vue sur un lieu précis, ne serait-ce qu'au niveau des sensations. » Rares étaient les gosses de 14 ans qui, découvrant Iowa City pour la première fois, aurait trouvé exaltant de quitter le Mexique pour s'y installer. Pour Juan Diego, l'Iowa était une aventure. Lui, qui n'avait jamais été en émulation avec les jeunes gens qu'il côtoyait, se voyait du jour au lendemain entouré d'étudiants. Iowa City était une ville universitaire. Le campus était en plein centre-ville, la ville et l'université ne faisaient qu'un. Pourquoi un lecteur de décharge publique ne trouverait-il pas merveilleuse une ville étudiante ? Les dieux du campus étaient ses champions sportifs, ce qui était naturel pour n'importe quel garçon de 14 ans. Et cela correspondait bien à ce que Juan Diego avait imaginé des États-Unis. Pour un petit Mexicain, les stars de l'écran et les champions sportifs devaient représenter le nec plus ultra de la culture américaine. Pour Flore, passer de Oaxaca à Iowa City avait dû être plus difficile, même si cela n'avait rien à voir avec la mésaventure qu'elle avait connue à Houston. Dans une ville hébergeant une des 10 meilleures équipes universitaires du pays, quelles opportunités s'offraient à un ancien travesti prostitué ? Après Houston, elle était peu disposée à prendre des risques. Se fondre dans la foule, faire profil bas, ce n'était pas son genre. C'était une personnalité affirmée. Quand le coq Maboul s'avisa de vocaliser une troisième fois, son chant fut brusquement interrompu à mi-course. « Ah, voilà une bonne chose de faite !» dit Myriam. « Il ne nous annoncera plus l'aube en plein milieu de la nuit. Fini les porteurs de fausses nouvelles. » Tandis que Juan Diego s'ingéniait à comprendre ce qu'elle voulait dire, elle semblait si catégorique, un chien se mit à aboyer, bientôt suivi par d'autres. « Ne fais pas de mal aux chiens, rien n'est de leur faute !» C'est ce que Lupe aurait dit. En ce nouvel an, sa chère petite sœur lui manquait terriblement. « Aucun mal ne sera fait aux chiens, chérie, » murmura Myriam. Par la fenêtre ouverte s'insinuait une brise légère venant de l'océan. Juan Diego croyait en sentir l'odeur iodée.